prêté pour un enlu entre l'Uruguayen et le Brésilien, une relation qui est en train de naître.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Votre rendez-vous du vendredi, une heure d'information sportive. Le football essentiellement en Europe et en Afrique. Vous le savez, la première journée des éliminatoires. Nos salutations, notre ami Nagy à la réalisation. Également l'équipe du Digital. Nous irons d'abord en Afrique. Vous le savez, les éliminatoires de la CAN, ça a commencé. Le champion d'Afrique a commencé sur les chapeaux de roue. L'Algérie n'a fait qu'une bouchée de la Zambie 1-0. Le Maroc ce soir affronte la Mauritanienne, derby maghrébin. Et puis la Tunisie sera opposée à la Libye. On rappellera que dans le groupe du Maroc, eh bien, la République centrafricaine a pris le meilleur sur le Burundi il y a 2 jours, 2-0. D'autres résultats, la RDC qui a fait match nul face au Gabon. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis l'Europe, certaines sélections se sont qualifiées hier, l'Angleterre, la République tchèque, la France, difficilement, mais c'était prévu d'ailleurs. Et puis on ira faire un petit tour également en Italie, en Espagne, en Angleterre, avec nos consultants dans cette première partie. Eh bien, Hervé Penaud est avec nous. Bonsoir Hervé.
Bonsoir les amis, bon, on va se régaler du football africain, oh oui, énorme.
Et également le football italien, bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Beaucoup de choses à dire sur l'Italie, pas seulement sur l'Italie qui joue, mais l'Italie du monde du football.
Justement, Simone, l'Italie déjà qualifiée, mais l'information ces derniers jours, c'est Cristiano Ronaldo, on le sait, on en a parlé lundi dernier, il était sorti énervé, remplacé, et également, on parle également du gardien de la sélection et du Milan AC du côté de la Juve. Mais d'abord, le football africain, on commence par quoi? Les résultats, le programme, le choc, le derby maghrébin, d'autant plus qu'on le disait lundi dernier, Hervé, à propos de la Mauritanie, on a vu les progrès nets enregistrés par le football d'une façon générale mauritanien, la sélection qui n'a pas démérité lors de la dernière CAN et également les clubs avec le FC Nouadhibou qualifié pour la phase de poule en Coupe de la CAF. Et aujourd'hui, c'est peut-être un match piège pour les débuts officiels de Halilhodžić, Hervé.
Oui, absolument. Commençons par le Maroc, j'allais dire, hein, parce que c'est vrai, c'est quand même le match important et capital aussi pour Vahid Halilhodžić, parce que on s'est bien rendu compte que depuis sa prise de pouvoir, il y a quand même quelques grincements dedans. Et puis, sa dernière liste, eh ben, a posé tout de suite le problème, a mis sur la table le problème d'Amin Harit, hein, qui a fait un début de saison phénoménal avec Schalke et qui est absent de cette liste-là. Alors, il y a une attente incroyable autour de ce match, parce que les matchs amicaux ont montré que pour l'instant, le Maroc ne retrouvait pas le niveau qui lui est permis d'aller en Coupe du Monde, et puis même de faire un peu tout ce qu'elle a fait ces dernières années. Et puis, il y a ce premier match décisif contre la Mauritanie, qui à première vue est quand même un adversaire dans les cordes de l'équipe du Maroc. Il faut quand même, même si on a vanté les mérites du football mauritanien, de l'évolution du football mauritanien, d'une sorte d'intelligence structurelle, hein, puisque le président de la fédération a travaillé sur le long terme avec ce club, cette équipe-là, il n'empêche que le Maroc a toutes les armes pour pouvoir s'imposer ce soir. Hein. Et il va falloir aussi que Vahid fasse débuter un petit peu, enclencher une dynamique positive autour de son arrivée à la tête de la sélection, et ça tombe pile aujourd'hui, parce que imaginez un mauvais résultat ce soir, et on va tout de suite, il va y avoir une pression phénoménale autour de cette équipe et autour du sélectionneur. On va se dire, et finalement, est-ce que ça a été le bon choix, le mauvais choix? Alors, avec en plus l'affaire Harit, il va falloir que les joueurs, j'allais dire, enclenchent aussi cette dynamique positive. Et puis, il y a un joueur qu'on attend, hein, c'est Hakim Ziyech, là, qui est là, qui n'était pas la dernière fois, qui visiblement sera nommé peut-être capitaine sur ce match-là. Et c'est lui, maintenant, qui va devoir porter cette équipe, comme Benatia, à une époque, qui a été beaucoup critiqué, c'est vrai, mais le portait. Et il va falloir qu'il soit le leader un peu charismatique, technique, ça, il l'est déjà, charismatique, pour pouvoir entraîner tout le monde dans son sillage. Alors, Belanda n'est pas là, hein, on sait aussi les problèmes qu'il a pu avoir avec Vahid Halilhodžić. Et bien, c'est maintenant à lui de prendre tout ça en main, Boussoufa étant plus là. Et voilà, de quel Maroc on va pouvoir voir ce soir. Sur le papier, il y a quand même des joueurs de bon niveau, hein, il y a des retours, le retour d'El Arabi, on peut le noter aussi, hein, qui retrouve un bon niveau, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis très longtemps. Et puis, d'être revenu en Europe, ça joue aussi en sa faveur, j'imagine, aux yeux de Vahid Halilhodžić. Donc aujourd'hui, il va falloir que cette équipe-là soit capable de montrer que le potentiel, il est là. Les Hakimi, les Masraoui, etc. sont des joueurs de haut niveau. Les Saïs fait quand même une bonne saison avec Wolverhampton. Maintenant, il faut arriver à prouver qu'en équipe du Maroc, eh ben, ça y est, se relance encore quelque chose de nouveau. Et c'est ce soir, je dis pas au jamais, parce que il y aura encore d'autres matchs qualificatifs, et puis avec deux qualifiés par groupe, il y a quand même la possibilité de se rattraper. Mais il n'empêche que pour l'avenir, j'allais dire même de Vaïdalidzic à la tête de cette équipe du Maroc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit enclenché ce soir. Hein, Fawzi Lekja a quand même parlé aux joueurs. On sent qu'il y a quand même une forme de pression autour de ce match-là, qui fait que bon, maintenant, c'est le soir, il va falloir enfin redémarrer.
C'est la première sortie officielle de l'équipe du Maroc depuis l'élimination en huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et cette sortie face au Bénin. Le Bénin, vous le savez, a joué ce week-end et a perdu, mais après avoir mené au score face au Nigeria 2-1. Je parlais tout à l'heure de la RDC et également du Gabon. Vous restez avec nous, Hervé. Nous allons essayer de libérer Simone Rovera, le spécialiste du football italien. Simone, on parle du gardien de la Juve ou bien de la star de la Juve?
Bah oui, on parle beaucoup de la Juve, c'est vrai, pendant la trêve. On parle plus de la Juve que de la sélection italienne. Et c'est vrai que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, fait la une de tous les quotidiens sportifs italiens. Mais c'est normal, on a vu hier en Cristiano Ronaldo en super forme, 3 buts face à la Lituanie, et surtout une réponse, 2 réponses. Une sur le terrain, les buts, et aussi quand il a été remplacé à quelques minutes de la fin, il s'est assis sur les bancs à côté de son entraîneur, en montrant que tout va bien. Et qui peut-être, s'il y a quelques soucis, c'est à la Juve et pas sur son genou. Et l'autre réponse, il l'avait déjà donné avant les matchs, quand il avait dit « je vais bien, je vais super bien ». Quand Maurizio Sarri, pour expliquer son remplacement qui avait fait beaucoup discuter, beaucoup grincer les dents en Italie, avait dit « il a un souci au genou ». Donc, on parle bien sûr de l'exploit de Cristiano, exploit plus ou moins, 3 buts face à la Lituanie, c'est pas 3 buts en finale de la Coupe du Monde, mais quand même, c'est un bon résultat. Mais aussi, on parle de la gestion de Maurizio Sarri. On se demande, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne nous a pas dit? Est-ce qu'il y a vraiment des relations tendues entre coach et joueur, au-delà de ce que on était les phrases, pour expliquer une sortie du terrain dimanche dernier face au Milan à la 55e minute, qui a fait beaucoup énerver Cristiano, qui, comme on a déjà dit, il est sorti du terrain, il est sorti du stade. Il n'a même pas regardé son entraîneur. Il a manqué de respect, on peut dire, à ses coéquipiers et à l'institution Juve. Et probablement, il n'est pas si blessé, comme on nous a expliqué, pour chercher d'éviter que cette situation pouvait dégénérer.
Est-ce qu'on prévoit, parce que la presse italienne parle d'une réunion de retour en Italie, il devrait avoir une réunion avec les responsables, et également certains joueurs demandent des excuses publiques rapidement, Simone?
Peut-être ils ne seront pas publics, mais seront dans les vestiaires. La Juve, c'est sûr qu'elle ne va pas sanctionner de façon économique Cristiano. Ça, c'est déjà étrange, parce que généralement, c'est un club qui gère très bien ces questions avec l'image du club devant aussi la force du joueur. Mais oui, c'est vrai, on va demander, les joueurs veulent voir Cristiano dans les vestiaires avant, quand ils rentrent de la sélection, pour une explication qui soit public, mais public dans le vestiaire au moins, et on attend des excuses.
Dernier mot, comme ça on libère Simone. On rappellera que l'Italie joue, bien entendu, mais l'Italie a déjà assuré sa qualification pour l'Euro 2020. L'Italie qui a raté, on le rappelle, la dernière Coupe du Monde, a fait forte impression depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur Mancini, ancien joueur également. Un petit mot concernant le gardien de la sélection et également du Milan AC. Est-ce qu'on parle d'un transfert, des contacts pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? On parle de Donnarumma.
Oui, alors c'était aussi aujourd'hui une discussion très, très chaude en Italie. Donnarumma a un contrat qui se termine en 2021, donc un an et demi. Milan n'arrive pas à prolonger ses contrats. Il gagne beaucoup, il gagne 6 millions nets par an. Et pour prolonger, il demande 12, donc de doubler ses salaires, 24 millions bruts. Imaginez une effort importante pour Milan. Donc il y a plusieurs clubs qui sont en train de se positionner sur les joueurs. Entre eux, il y a aussi la Juve, qui voudrait prendre un jeune gardien à grand potentiel, comme c'était il y a une vingtaine d'années aujourd'hui pour Gigi Buffon. Et c'est le club plus intéressé aujourd'hui à Donnarumma. On va parler, bien sûr, jusqu'à la fin de la saison pour trouver la formule importante et nécessaire pour la Juve pour trouver un accord avec Milan. Mais je peux dire que l'été prochain,
ça va être presque sûrement l'été du départ de Donnarumma. Et la Juve, c'est une des clubs intéressés, peut-être les plus intéressés. Mais attention, plusieurs clubs en Europe vont se pencher sur ces joueurs.
Simone Rovera, notre consultant pour le football italien, merci beaucoup et à lundi prochain pour revenir sur ce qui fera l'actualité le week-end. Dans un instant, Aurélien de Vernon, notre monsieur football anglais, l'Angleterre a assuré sa qualification, le 1000e match, une bien sûr pluie de buts hier face au Monténégro, mais on retrouve Hervé. Hervé, il y a encore des choses à dire à propos du football africain, les éliminatoires, ça a commencé mercredi, ça se poursuit ce soir et demain, dès lundi, mardi, la deuxième journée, ou bien on passe directement à la France et le match d'hier?
Non, il y a des petites choses à dire quand même, hein, parce que c'était le retour de l'Algérie. Retour de l'Algérie après sa victoire à la CAN. Ils avaient fait des bonnes séries de matchs amicaux. Rappelons-nous la victoire contre la Colombie 3-0. Mais là, force est de constater que contre la Zambie, alors la Zambie, c'est peut-être pas une grosse équipe du football africain, mais il n'empêche, il faut quand même les bouger. Un 5-0 qui fait du bien, hein, qui confirme que ce que je trouve très intéressant avec Jamel Belmadi, c'est qu'il a réussi à maintenir tout son groupe sous pression. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Parce que quand vous gagnez une CAN comme ça, de temps en temps, bah, vous avez des petits coups de moins bien. Lui, pas du tout. Il a remis 6 nouveaux joueurs. Il a relancé des joueurs. Il a pas eu peur de rappeler Soudani. Soudani qui marque un but en fin de match. Très important parce que Soudani, c'est, rappelez-vous, l'ère Soudani Slimani à une certaine époque, c'est un joueur qui avait fait beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe d'Algérie. Et aujourd'hui, je pense que pour ce qui est de cette équipe des Fennec, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'ils ont un état d'esprit qui est remarquable, qui n'est pas de place, si vous voulez, aux excès, aux erreurs, excès par exemple d'individualisme ou excès de supériorité qu'aurait pu avoir cette équipe il y a un certain temps. Aujourd'hui, franchement, c'est la patte Belmadi qu'on a vue durant la CAN et qu'on voit maintenant lors de ces éliminatoires. Et puis, il y a aussi un autre résultat à noter, c'est ce match nul du Gabon contre l'équipe des RDC, parce que c'est le début quand même de la nouvelle ère gabonaise. On va voir un peu ce qu'est capable de donner cette équipe avec le retour d'Aubameyang assuré, plus Ndong, plus Bouanga qui fait un très bon début à Saint-Etienne. Et pour l'instant, c'est une bonne chose, c'est un bon résultat de réussir un match nul en RDC, même si les deux équipes sont peut-être favorites dans leur groupe, mais il n'empêche, c'était pas une certitude pour le Gabon de réussir comme ça. Donc ce match nul, c'est vraiment un bon début, on va dire bon début pour cette équipe du Gabon, maintenant à confirmer lors du deuxième match.
Voilà pour les faits marquants de cette première journée de la CAN 2021 prévue en Cameroun. Le Cameroun qui a fait match nul, mais on le sait, le Cameroun en tant que pays organisateur est assuré de la qualification. On part en Europe et surtout la France, avec la France qui a eu du mal hier, il y a eu des erreurs. L'Anglais, le défenseur du Barça, on a dit beaucoup de bien, ça arrive parfois, ça arrive, et c'est arrivé hier. Et puis il y a également cette victoire difficile, poussive, mais n'empêche, la qualification est là, reste à assurer la première place la semaine prochaine. Mais d'abord, les difficultés hier, c'était prévu, Hervé?
Oui, vous savez, le problème, c'est que l'équipe était qualifiée avant même de jouer. Alors déjà, c'est une première chose, c'est souvent un désavantage. Ils auraient pu faire une espèce de fête contre la Moldavie, petite équipe du football européen. Mais ça a été beaucoup plus difficile que prévu. Et puis une erreur incroyable de l'Anglais, une double erreur, c'est-à-dire deux têtes ratées vers son gardien. Une petite erreur, je trouve, aussi de Mandanda, qui aurait pu sur le coup sauver justement la petite erreur de l'Anglais. Donc il n'a pas pu, et ça fait que ça a lancé cette équipe de France sur les mauvaises bases, et après, ils ont fait un peu n'importe quoi, ils se sont tous mis dans l'axe. Mbappé, qui n'a pas fait le meilleur match de sa carrière, même s'il met une remise intéressante sur Digne qui amène le pénalty, au final, d'une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps un peu meilleure, et qui a permis quand même de s'imposer, mais il faut quand même noter que durant ces éliminatoires, on n'a pas vu une grande équipe de France, et j'allais dire l'après-mondial, quand on réfléchit bien, il y a quand même eu pas mal d'accros, hein. On l'avait vu contre lors du des matchs de la Ligue des Champions, puisqu'on ne s'est pas qualifié, rappelons-nous, contre les Pays-Bas. Et puis là, les deux matchs qui ont été logiquement les deux matchs les plus importants, c'est-à-dire contre la Turquie, hein, qui est deuxième pour l'instant de son groupe, il y a une défaite et un match nul. Donc on n'a pas vu une équipe de France resplendissante, mais j'allais dire une équipe de France qui fait le boulot. Et puis on connaît Didier Deschamps est souvent très présent lors des phases finales, donc c'est là-dessus qu'on va encore attendre cette équipe de France.
Un petit mot sur le buteur qui a permis à l'équipe de France de l'emporter, Olivier Giroud. C'est quelqu'un qui joue tous les deux mois, enfin je plaisante, mais avec l'équipe de France il est performant. Et puis en même temps, cette semaine, on a vu dans la presse espagnole un débat en quelque sorte, les journaux de Madrid qui réclament le retour de Benzema en équipe de France. Hervé?
Alors là, vous savez, ça nous a fait un petit peu sourire le débat sur Benzema, parce que de toute façon, il n'existe pas ce débat-là. Tant que Didier Deschamps, sa sélectionneur, et je pense qu'il sera sélectionneur assez longtemps pour que Benzema ne revienne plus jamais en équipe de France, puisqu'après, il devra bien prendre sa retraite internationale, sa retraite à un moment ou à un autre. Didier Deschamps, si vous voulez, ne resélectionnera plus Benzema. Alors c'est terrible, évidemment, pour le niveau de l'équipe de France, parce que, enfin, terrible. On sait que c'est un joueur qui a largement sa place dans cette équipe de France, qui serait peut-être énorme avec les Griezmann, avec les Mbappé, avec les Coman, mais on sait ce qui s'est passé dans cette équipe de France, les fameux scandales avec l'histoire Valbuena, plus après les propos qu'avait tenus Benzema, qui avait entraîné, ne l'oublions pas, les tags sur la maison de Didier Deschamps en Bretagne, où il y avait marqué raciste. Alors là, ça avait été terrible pour sa femme aussi. Donc à un moment, il s'était dit, c'est terminé. En gros, il peut même pas voir Benzema. Aujourd'hui, il pourrait peut-être plus, même plus le diriger, parce qu'il pourrait même plus faire face à lui, parce qu'il s'est allé un petit, c'est leur affaire est allée trop loin. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de Benzema. Donc les journaux espagnols peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il n'y aura pas de Benzema. Alors on peut le regretter, hein, parce que le niveau de jeu de Benzema, évidemment, est énorme. Et puis ce qu'il est en train de montrer avec le Real le prouve match après match, mais il n'y aura pas de Benzema. Et le problème pour Benzema, d'une certaine manière, c'est aussi, et ce qui donne un peu de crédit au choix de Didier Deschamps, c'est que Giroud continue son aventure avec l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il a beau ne pas jouer en club, ça paraît absolument stupéfiant, mais il est toujours présent, et c'est lui encore qui a marqué le pénalty de la victoire, qui est aussi à l'origine du premier but, à mon avis sur une faute, parce qu'il y a une faute d'arbitrage sur l'égalisation de l'équipe de France et le but de Varane. Il n'empêche que Giroud, il fait ses matchs avec l'équipe de France, 39 buts en équipe de France, et que peut-on dire de Giroud, si ce n'est que pour l'instant il est toujours là. Alors je ne sais pas si ça durera, parce que s'il ne joue jamais en club, à un moment ça va quand même atteindre ses performances en équipe nationale. C'est toujours pas le cas aujourd'hui, et malheureusement, moi qui adore Benzema, évidemment j'aurais aimé voir Benzema, mais là malheureusement la tension entre les deux, entre Benzema et le sélectionneur, est trop importante pour qu'un jour il puisse revenir, en tout cas sous la mandature de Didier Deschamps.
Voilà donc pour le débat, et également la prestation et la régularité d'Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea, souvent remplaçant en Angleterre avec l'équipe londonienne, mais efficace, souvent buteur, même s'il ne marque pas. Hier, on a vu qu'il était à l'origine de l'action, entre guillemets, il y avait faute, qui a permis à Varane, le capitaine, en l'absence de Hugo Lloris. Merci beaucoup Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain et français, et merci, bonne soirée. Et on prend la direction de l'Angleterre. Vous le savez, l'Angleterre a assuré officiellement sa qualification hier. Il y avait 6 sélections qui étaient déjà qualifiées. Eh bien, hier, l'Angleterre, avec la République tchèque et la France notamment, ont rejoint les équipes déjà qualifiées pour parler du match d'hier et également ce qui s'est passé lundi dernier. Vous le savez, Joe Gomez, le défenseur de Liverpool, et également l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, se sont accrochés dimanche lors du choc contre les deux équipes. Et lundi, le premier jour du rassemblement, eh bien Sterling, le joueur de City, a été renvoyé parce que les deux joueurs en sont venus aux mains. Avant de revenir sur cela, d'abord on accueille Aurélien Devernois, notre monsieur football anglais. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir à toutes et à tous.
Aurélien, d'abord le match d'hier, Harry Kane en forme, une nouvelle victoire, large score, 33 buts inscrits lors de ces éliminatoires, l'Angleterre finaliste de la Coupe des Nations, la Ligue des Nations, également dans le dernier carré lors de la dernière Coupe du Monde, eh bien montre et prouve chaque jour son retour au sommet.
Oui, ça a été vite fait, bien fait, hein, comme on dit, l'Angleterre devait s'imposer. Un match nul aurait été suffisant, mais en tout cas il fallait s'imposer face au Monténégro pour assurer cette qualification pour l'Euro qui était promise depuis un moment, mais qui n'était pas encore définitive d'un point de vue mathématique. Et c'est vrai que les Anglais, pour leur millième match international, hein, quand même, ça fait un sacré nombre de matchs, et ben ils ont décidé de passer la surmultipliée, comme on dit, à Wembley, 7-0, un score complètement écrasant face à une équipe du Monténégro qui était pourtant pas la plus mauvaise des équipes de ce groupe et qui avait donné du fil à retordre à plusieurs des autres sélections dans ce groupe-là. Mais voilà, les Monténégrins n'ont pu faire que constater la rage de vaincre de la sélection aux Trois Lions et surtout la volonté notamment de Harry Kane de se sortir un petit peu de la mauvaise passe dans laquelle il se trouve avec son club de Tottenham. Il a du mal à trouver des repères sur le terrain, il marque peu cette saison, ce qui est relativement relativement inhabituel pour lui, hein, parce que c'est, on parle quand même d'un attaquant qui est à plus de 20 buts par saison depuis 5 saisons. Et là, voilà, Harry Kane a fait parler la poudre, il a inscrit un triplé, bien aidé d'ailleurs par le latéral de Leicester, Ben Chilwell, qui a été excellent lors de cette rencontre. Voilà, c'était nécessaire pour les hommes de Gareth Southgate de remporter cette rencontre. Ils l'ont fait avec la manière, ils ont honoré de la plus belle des manières qui soit cette millième rencontre de leur sélection. Donc globalement, tout va bien du côté de l'Angleterre.
Tout va bien du côté de l'Angleterre. Par contre, pour Raheem Sterling, la star est l'un des meilleurs ailiers en Europe, eh bien, il a été renvoyé lundi dernier, le premier jour du rassemblement, parce qu'il y a eu un accrochage avec Joe Gomez, le joueur de Liverpool, et je le disais tout à l'heure, les deux joueurs s'étaient déjà accrochés dimanche lors du choc entre Manchester United, plutôt City, et Liverpool. Et la suite, vous allez nous la rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé dès le lundi, le premier jour du rassemblement des Anglais, Aurélien ?
Ils étaient au réfectoire et il y a eu... Joe Gomez a voulu serrer la main de Sterling, qui l'a repoussé. Le ton est monté très vite. Sterling s'est montré apparemment très agressif. Ça a failli vraiment dégénérer fortement. Et puis il y a eu des joueurs qui se sont interposés, notamment Jordan Henderson, le coéquipier de Joe Gomez à Liverpool, mais qui est par ailleurs un ami assez intime de Raheem Sterling. Finalement, ça s'est réglé à l'amiable, comme on dit, mais Gareth Southgate n'a pas du tout apprécié, et donc il a décidé, pour le match contre le Monténégro, de laisser Raheem Sterling en dehors de l'équipe, alors même que c'est vraiment un atout offensif majeur de cette sélection anglaise. Voilà, et Southgate n'a pas vraiment supporté, finalement, qu'il puisse y avoir ce genre de tension dans son équipe. Évidemment, on sait que quand une équipe est composée de beaucoup... de joueurs venant de clubs rivaux, c'est pas forcément facile, et Dieu sait que l'Angleterre le sait, avec toutes ces années 2000 marquées par des tensions de vestiaire entre les joueurs de Chelsea, les joueurs de Manchester United, les joueurs d'Arsenal. Ça n'a pas été évident, et c'est peut-être aussi pour ça que l'Angleterre n'a peut-être pas gagné les titres qu'elle aurait pu gagner avec cette génération magique, Lampard, Beckham, Scholes, etc. Donc Southgate est très conscient de ça, il ne veut pas vraiment qu'il y ait des têtes qui dépassent et qu'il y ait des incidents comme ça qui puissent se dérouler quand les joueurs sont en sélection, et donc il a décidé de sévir. Et c'est vrai que Sterling s'est excusé, il a même applaudi quand Joe Gomez est rentré sur le terrain contre le Monténégro. En revanche, les supporters anglais présents à Wembley n'ont pas vraiment pris le parti du joueur de Liverpool, et ils l'ont hué lors de son entrée sur le terrain, ce qui était un peu étonnant. Mais voilà, c'est les rivalités de la Premier League qui parfois... déborde sur la sélection anglaise.
Merci beaucoup Aurélien de Vernon, à notre monsieur football anglais. On rappellera que ce genre d'accrochage arrive souvent en sélection ou bien en club. Bonjour Mlahsen Mouddin, Nabil Al-Qaissi qui demande quand est-ce que commencent les éliminatoires de la CAN. Eh bien, les éliminatoires de la CAN, on le disait tout à l'heure, ont déjà commencé. C'était mercredi dernier déjà, et se poursuivent. On parle de la première journée, bien sûr. Ils se sont poursuivis hier et aujourd'hui. Également, Mohamed Aït Ali et les autres auditeurs qui passent le bonjour à toute l'équipe. On rappellera que dans la deuxième partie de l'avant-match, eh bien, on ira en Espagne pour parler de David Villa, l'ancien attaquant espagnol du Barça, de Valencia notamment, a décidé de raccrocher les crampons. Et puis on ira également en Allemagne, on reviendra sur ce qu'a dit le sélectionneur de la Bundesliga, de la sélection allemande, à propos des chances de l'Allemagne de remporter l'Euro en 2020. À tout de suite. La deuxième partie de l'avant-match, merci et bonsoir à toutes et à tous. On parle football allemand, également espagnol. Dans un instant, nous allons à Madrid pour retrouver Frédéric Kermel. Le bonjour également à nos auditeurs. Il y a eu une coupure tout à l'heure dans la retransmission. Lahsen El-Mouddin, Nabil Qaissi, qui posait la question à propos du début des éliminatoires de la CAN. Ça a commencé mercredi. Ayoub Dit Rauma également. Ziad Gharbaoui, Abdelhaoud et Rehani, Abdelwahed Rehani, qui dit hola, hola, bonjour à tous. C'est également le football, on parlait tout à l'heure du football allemand, africain, européen, espagnol. Les éliminatoires, nous allons d'abord accueillir notre ami David de l'Ortolari, bonsoir David.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
David, bien sûr, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du Bayern Munich. Là aussi, on va parler du Bayern parce que Kimmich, l'un des hommes clés de cette équipe et même de la sélection, il était tout jeune lorsque Guardiola l'a lancé. On va y revenir dans un instant, mais d'abord la conférence de presse parce qu'on le sait, l'Allemagne pourrait se qualifier dès ce week-end. Peut-être ça sera retardé à la semaine prochaine, mais en tout cas, l'Allemagne est bien placée. Mais pour le sélectionneur, l'Allemagne devrait se qualifier, mais ne fait pas partie des favoris. C'est en raison de la, entre guillemets, reconstruction, c'est bien ça ?
Oui, c'est vrai. Il y a une espèce une forme de modestie qui est toujours un peu curieuse vue d'Allemagne parce que on est habitué à une confiance en soi, on est habitué à une forme d'arrogance parfois dans le pire des cas. Et puis là, on a l'impression que c'est un petit peu l'excès inverse. Après la débâcle du Mondial 2014, on a commencé à prendre son temps, on a attendu quelques mois avant de faire une vraie analyse. On a ensuite vraiment rebondi avec quelques beaux matchs, notamment contre les Pays-Bas. Et puis, il y a aussi des rechutes. Et ces rechutes, elles sont dues peut-être pour partie à la jeunesse de l'équipe, au changement de système, parce que le sélectionneur essaye de changer un peu de voie aussi, tout en gardant son idée de football offensif. Ça n'a pas changé. Et puis, moi, il y a quelque chose d'autre qui me paraît notable dans ce positionnement un petit peu modeste. C'est que il y a des joueurs dont on ne sait pas réellement le statut. Par exemple, un Matthias Ginter, qui est international depuis longtemps dans cette équipe maintenant. Bon, il est peut-être un peu sous-estimé. Peut-être qu'on ne lui confie pas suffisamment de responsabilités, alors qu'il fait de belles choses avec le club leader du championnat en Allemagne, Mönchengladbach. Voilà un exemple. Et on est encore en train de se chercher hein, pour cette équipe d'Allemagne, en résumé. On veut essayer d'avancer masqué, mais bien sûr que sur la scène européenne, lorsque l'Allemagne est présente dans un tournoi, les adversaires la considèrent comme un candidat sérieux. Donc c'est difficile de se positionner. Il y a l'excès inverse à l'arrogance qu'on a connue pendant des décennies, qui est aujourd'hui peut-être un excès de modestie aussi. Mais c'est vrai que tout n'est pas parfait dans le jeu, loin de là actuellement.
On va continuer à parler football allemand, mais d'abord on accueille Frédéric Kermel, notre monsieur football espagnol. La sélection espagnole qui affronte Malte, mais on va parler des informations qui ont circulé cette semaine en Espagne. La retraite de David Villa, l'état de santé de James, l'international colombien du Real Madrid qui ne joue plus, et peut-être que sa blessure s'est aggravée. Et puis également la presse espagnole qui parle du Barça. Le club catalan serait à la recherche d'un défenseur central pour la saison prochaine. Les problèmes de santé, le genou récalcitrant d'Umtiti, et également un remplaçant à la paire Piqué et l'anglais. Mais d'abord, Fred, bonsoir, monsieur football espagnol.
Oui, bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
Vous restez avec nous, Fred, on va parler dans un instant du football espagnol, mais d'abord, on revient vers David. David, je parlais tout à l'heure de Kimmich. Il porte parfois le brassard de capitaine, on l'a vu avec la sélection, même avec le Bayern lorsque Neuer est absent. Et lors de son passage devant les journaux, on a posé la question parce que le Bayern est à la recherche d'entraîneurs. Et il a dit, pourquoi pas le retour de Pep Guardiola ?
Oui, alors c'était une conférence de presse qui a proposé aussi aux médias et aux journalistes Timo Werner. Lui aussi essaye de s'affirmer dans un autre style. C'est vrai que Kimmich, qui est un des vice-capitaines maintenant au Bayern et en équipe nationale, statut officieux, hein, je précise, essaye de prendre ses responsabilités, et des fois il va un peu loin dans ses déclarations. Pour ce chapitre-là, ça me surprend pas tellement. Parce qu'en fait, autant les supporters du Bayern étaient très divisés pendant la présence de Pep Guardiola et dans la foulée de son départ, parce que pour certains, on avait trop modifié la nature profonde du club avec Guardiola, on avait trop changé l'identité du Bayern. Pour les autres, on était très favorable à ce beau jeu pratiqué avec Guardiola. Et justement, le crédit qui lui est donné à cet entraîneur catalan et espagnol, c'est avant tout le crédit qui lui est donné par les joueurs et par ses dirigeants lorsqu'il était au Bayern. Ça fait quand même beaucoup, parce que les joueurs, évidemment, ont gardé un très bon souvenir de Guardiola, pour la plupart, quand même. Et puis les dirigeants, et notamment Rummenigge, avaient fait de Guardiola un modèle d'entraîneur et quelqu'un qu'ils étaient très fiers d'avoir fait venir. Donc ça ne m'étonne pas tant que ça. Et quelque part, avec le côté peut-être un petit peu rustre, je dis bien, de Niko Kovac. On est un peu nostalgique lorsqu'on est un bon joueur de football comme Kimmich, du jeu pratiqué par Guardiola. Voilà, c'est pas si surprenant que ça, même si dans le contexte actuel et les deux matchs de la sélection qui arrivent, c'est un peu curieux quand même comme déclaration.
Il y a Abdelwahed Riani qui dit « Vamos a ver un partido de football ». Je ne sais pas s'il pose la question à propos du match de ce soir entre l'équipe du Maroc et la Mauritanie, le derby maghrébin comptant pour les éliminatoires de la CAN. Ça sera à Rabat. En tout cas, on a évoqué les éliminatoires de la CAN tout à l'heure dans la première partie avec Hervé Penaud. Ou plutôt, il parle du match de la sélection espagnole qui affronte Malte. Mais bien sûr, en Espagne, la qualification est dans la poche. C'est surtout les informations qui ont circulé. Vous restez avec nous, David, le Real Madrid, le Barça et également David Villa qui a annoncé, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole, qui a annoncé la fin de sa carrière. David Villa, qui a porté les couleurs du Barça, de Valencia entre autres, et aussi au Japon et avec la sélection, il a gagné plusieurs titres, Fred.
Oui, sincèrement, c'est quand même un gros événement dans l'histoire du football espagnol. C'est vrai qu'il est un petit peu timide et que ce n'est pas quelqu'un qui aime la ramener, mais David Villa a marqué l'histoire du football espagnol. 98 matchs avec la sélection, 58 buts, il est le meilleur, El Pichichi, comme on dit, le meilleur buteur de la sélection. Il a gagné 2 euros, il a gagné un mondial. Enfin, c'est une légende discrète du football espagnol qui a annoncé cette semaine, à 37 ans, qu'il arrêtait le football, qui raccrochait les crampons, comme on dit. Et ça a mérité la une de journaux importants, hein, comme AS, comme Marca, et partout, on a salué la figure de cet homme discret, né dans le nord-ouest de l'Espagne, dans la région des Asturies, dans une zone minière, lui, fils de famille de mineurs, hein, des gens très modestes, et on l'appelait El Guaje. Alors le Guaje, dans le langage de la mine, c'est les petits, le jeune gamin qui, à l'époque des mines, poussait les wagons dans les tunnels, quoi. Voilà. Donc, El Guaje Villa, David Villa, qui met un terme à sa carrière. Et ça sera impossible de trouver une seule critique, parce que c'est vraiment un bon mec qui est passé, on le sait, Saragosse, Valence, Barça. Voilà. Et puis, il a terminé sa carrière à 37 ans au Vissel Kobe au Japon. C'est important de se souvenir de ce qu'a fait ce joueur, et c'est maintenant qu'il quitte le football qu'on va pouvoir mesurer le talent incroyable qu'il a eu, et le palmarès surtout, parce que c'est l'un des plus beaux palmarès au monde.
Justement, David Villa qui a remporté plusieurs titres avec la sélection, et également avec les clubs et surtout le Barça. On va revenir dans un instant, puisqu'on a encore le temps, pour le football allemand. On a parlé de la qualification quasiment en poche. On va parler, puisqu'on a le temps ce soir, de Mönchengladbach, parce que c'est une équipe qui a brillé il y a quelques années. Ces derniers temps, eh bien, l'équipe a disparu de la circulation en quelque sorte, mais en ce début de saison, eh bien, l'équipe revient en forme. Ça sera la prochaine question à David, mais d'abord l'Espagne, puisqu'on y est. D'abord, le Real Madrid, ces dernières journées, on a vu les absences de Gareth Bale et surtout James Rodriguez qui est revenu au club mais qui est blessé, et là on apprend que peut-être la blessure est sérieuse et on parle de plusieurs mois d'absence, Fred.
Alors là, franchement, on ne peut pas dire que le Real soit verni en ce qui concerne les blessures, au moins les plus critiques, qui aiment bien attaquer la préparation physique de Zidane et notamment de Grégory Dupont, hein, qui l'a fait venir cette année de l'équipe de France. Là, ce n'est pas une blessure musculaire. James Rodriguez s'est fait très mal à un genou lors de l'entraînement de la sélection nationale de Colombie, dont il est le capitaine et le leader. James Rodriguez, qu'on n'a pas vu depuis un certain moment avec le Real, il y a quelque chose qui doit énerver Zidane. C'est-à-dire qu'il n'était pas disponible pour son club, mais dès qu'il est appelé par la sélection, il y va. C'est quand même très compliqué tout ça, et on ne peut pas se réjouir de la blessure d'un footballeur, et Zidane sera le premier à le regretter. Mais sincèrement, ça fait des semaines que James Rodriguez ne sert à rien au Real Madrid.
On a parlé tout à l'heure avec Simone Rovera à propos de Cristiano Ronaldo. On le sait, Cristiano Ronaldo était sorti énervé l'autre jour en championnat, sorti à la 55e minute par Sarri. Et puis l'entraîneur avait parlé d'une blessure. Mais on a vu hier Cristiano Ronaldo face à la Lituanie qui a réussi à tripler. Dernière question, Fred, c'est à propos du Barça. La presse espagnole, eh bien, dit que le Barça est à la recherche d'un défenseur central. Du coup, eh bien, Samuel Umtiti pourrait perdre sa place. Et là, pour l'instant, la charnière centrale est composée de l'Anglais et également de Piqué, mais il n'y a pas vraiment de remplaçant. Peut-on savoir de quoi il s'agit au fait ?
Le Barça, oui, oui, le Barça a plein de problèmes partout. Mais c'est vrai qu'en défense centrale, on peut se poser beaucoup de questions. Sur l'avenir de Samuel Umtiti. La presse espagnole catalane en faisait déjà sa une cette semaine pour dire que Umtiti c'était fini. Voilà, Umtiti ça avait été une intégration express quand il est arrivé de l'Olympique Lyonnais, très bon joueur, et puis il y a eu ce problème récurrent au genou. Il n'a pas voulu se faire opérer à temps, il a voulu faire ce qu'on appelle les traitements conservatoires. Finalement il a perdu beaucoup de temps et puis il s'est fait dépasser par un certain Clément Lenglet qui est arrivé de Barcelone et qui lui est un joueur parfait. Aujourd'hui on ne sait plus trop si Samuel Umtiti a un avenir au Barça. On serait plutôt tenté de dire que non, il n'a pas d'avenir dans le club catalan et qu'il devrait partir assez rapidement, pourquoi pas au prochain mercato. Il n'est pas vraiment dans la dynamique du groupe et le Barça se pose une question. Oui, il faut absolument recruter un autre grand défenseur central parce que c'est vrai qu'en ayant Piqué, Umtiti et Lenglet sur le papier, c'était magnifique. Mais avec un Piqué qui commence à vieillir, un Umtiti dont je viens de parler, dont l'avenir est sombre dans le club barcelonais, oui, il faut que Valverde et les dirigeants trouvent un nouveau défenseur central. Et attention, ce n'est jamais facile au mois de janvier. Donc voilà, c'est un problème de plus pour le Barça. L'Anglais très bon, Piqué est là, mais bon, attention, il n'y a pas vraiment d'alternative derrière, et un grand club comme le Barça ne peut pas se permettre de n'avoir que deux bons centraux à disposition. On sait qu'il y a beaucoup de matchs, on sait qu'il y a souvent des blessures, et puis que quelqu'un comme Piqué et même l'Anglais prennent des cartons jaunes et des cartons rouges.
Et justement, Piqué sera suspendu pour la prochaine journée en Ligue des Champions. Le Barça accueille le Borussia Dortmund. Le Barça qui a été accroché sur son terrain par le Slavia Prague lors de la 4e journée. Le Borussia Dortmund qui a dominé l'Inter est revenu à une longueur. Et du coup, eh bien, le calendrier du Barça est difficile. Recevoir le Borussia Dortmund et aller en Italie pour affronter l'Inter. De plus, le Barça doit affronter également en Ligue, plutôt en championnat, dans quelques jours, l'Atlético Madrid. Merci beaucoup, Frédéric Hermel, notre consultant pour le football espagnol. Il nous reste 5 petites minutes. On va les passer avec David Lortolari. David, je parlais tout à l'heure du Borussia de Mönchengladbach. On ouvre une parenthèse rapidement. L'Allemagne est bien placée pour se qualifier, mais il y a aussi dans ce groupe les Pays-Bas. Et les deux sélections peuvent aller à l'Europe dès ce week-end.
Oui, pour ce qui est de l'Allemagne, on a deux réceptions. La Biélorussie ce samedi et puis 3 jours plus tard, on reçoit l'Irlande du Nord. Et d'ailleurs, je fais une très rapide parenthèse dans la parenthèse. Le sélectionneur, quelque part, n'a pas tranché puisque en ce qui concerne les gardiens de but et ce fameux feuilleton, puisque Manuel Neuer gardera les buts pour le premier match et Ter Stegen, son concurrent principal évidemment, que Fred Hermel connaît bien, gardera les buts contre l'Irlande du Nord. Voilà, on essaye de ménager la chèvre et le chou pour ce qui est de l'équipe d'Allemagne. Oui, les Pays-Bas de l'autre côté, avec toujours cette double carburation de Memphis Depay. Quand il est en sélection, il est flamboyant, et quand il est en club, il est sur un courant beaucoup plus alternatif. Mais c'est intéressant. Ça a été un atout, je crois, pour les deux équipes de se retrouver dans le même groupe, parce que ça leur a permis une vraie émulation, et c'est quelque chose dont on manque parfois dans les phases de groupe, dans les phases d'éliminatoire. Et là, en l'occurrence, c'était une exigence pour les deux sélectionneurs, et je crois que c'était un atout pour les deux, à condition, bien sûr, de se qualifier dans les deux cas, Hakim.
Voilà, donc pour l'Euro, les éliminatoires éliminatoires. On rappellera que certaines sélections s'étaient déjà qualifiées à l'image de l'Italie et également la Russie. Hier, eh bien, on a eu la Turquie, la France, la République tchèque et l'Angleterre. L'Allemagne, on y revient. L'Allemagne, pour parler d'une équipe, bien entendu, qui a brillé de mille feux, j'allais dire, pendant plusieurs années, mais cela fait un bon bout de temps. Eh bien, cette équipe est revenue sur le devant de la scène. Il s'agit du Borussia Mönchengladbach pour les jeunes, pour les ceux qui n'ont pas suivi cette équipe. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette formation, David ?
5 rencontres d'affilée, Hakim, en tête du championnat de Bundesliga. C'est quelque chose qui n'était plus arrivé depuis 42 années, 42 saisons. Et forcément, ça ne parle qu'aux gens qui ont au moins 50 ans, allez, on va dire. Ou allez, 40. Mais oui, c'est un vrai retour intéressant basé sur une série d'ingrédients qui fonctionnent. Une direction qui n'en fait pas trop, qui reste assez distante, si on peut dire, par rapport au flux et au bruit médiatique. Un directeur sportif excellent en la personne de Max Eberl, qui est courtisé, qui a été courtisé et qui continue d'être courtisé par le Bayern, parce que c'est un directeur sportif qui lui aussi fait peu de bruit, mais qui a une vraie sérénité dans les choix, dans le recrutement, et il ne s'est pas beaucoup trompé, et il est présent depuis plusieurs années, donc il peut construire un vrai projet. Un entraîneur qui vient du RB Salzbourg, qui est arrivé l'été dernier, Marco Rose, et qui est assis sur sa confiance acquise en Autriche, et une équipe, un groupe suffisamment large pour pouvoir faire un petit peu tourner, pour pouvoir supporter des blessures. Par exemple, l'international américain Fabian Johnson est revenu, c'était hier, à l'occasion d'un match amical que le Borussia a disputé. Il a joué 70 minutes contre un club de 3e division, Uerdingen. Devant, on a réussi le recrutement avec Alassane Plea, il y a déjà quelques mois, et tout récemment Marcus Thuram, les deux venus du championnat de France. Ça tourne bien, on a plusieurs solutions. On peut se passer du capitaine Lars Schindel lorsqu'il est un peu blessé ou un peu hors de forme, et ça marche quand même. Et on a réussi à gagner un match très important en Coupe d'Europe contre l'AS Rome de Simone Rovera. Il y avait eu un partout au match aller en Italie dans ce groupe de Ligue Europa, et il y a eu une victoire tardive certes, mais une victoire de Mönchengladbach avec justement Marcus Thuram. Et le Borussia est en course aussi en Coupe d'Europe. Peut-être que dans les prochaines semaines et les prochains mois, il va y avoir de la difficulté à jouer sur les deux tableaux, leadership en Bundesliga et Coupe d'Europe. Mais en tout cas, ça réjouit les supporters qui étaient un petit peu en manque depuis une quarantaine d'années, effectivement.
Merci beaucoup, David Lortolari, notre monsieur football allemand. Et on se retrouve lundi prochain pour l'après-match. Merci, David.
Bien. Merci.
Eh bien, il nous reste 15 secondes, juste le temps de rappeler que ce soir à 20h, eh bien, le premier match de l'équipe du Maroc sous la houlette de Wahid Halilhodžić, le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas. Le Maroc affronte la Mauritanie, un derby maghrébin. Ça sera à Rabat à partir de 20h dans ce groupe E. Eh bien, en attendant cette rencontre, c'est la République centrafricaine qui est en tête après sa victoire face au Burundi 2-0. De son côté, la Tunisie affronte la Libye. Merci beaucoup, merci Nagy, l'équipe digitale. Merci à tous.